إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي رحمه الله تعالى وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. D'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si on accordait aux gens tout ce qu'ils prétendent, des hommes réclameraient les biens et le sang des autres. Cependant, la preuve incombe à l'accusateur, sinon il suffit à l'accusé qui nie de jurer. C'est un hadith bon, rapporté par al-Bayhaqi rahimahullah et d'autres, et il est en partie dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ta'ala. Donc comme vous le voyez, ce hadith, c'est une règle immense en ce qui concerne la juridiction ou la justice, notamment à propos des conflits entre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc dit dans ce hadith: si on accordait aux gens ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire si le juge ou celui qui est chargé de concilier entre les gens, s'il leur accordait tout ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire tout ce qu'ils réclament ou ce qu'ils renient. Tout ce qu'ils réclament, par exemple, si une personne prétend qu'une autre lui doit une certaine somme d'argent. Ou ce qu'il renie, c'est-à-dire que la personne dit: non, je lui ai rendu cet argent. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on accordait aux gens ce qu'ils prétendent, c'est-à-dire ce qu'ils réclament ou ce qu'ils renient, des hommes réclameraient les biens et le sang des autres. En effet, l'accusateur, il se peut qu'il prétende beaucoup de choses, même des choses fausses. Mais si on lui accorde ce qu'il réclame, en se basant seulement sur ce qu'il prétend, alors il n'aura pas de limite. En effet, si on ouvrait cette porte, chacun prétendrait ce qu'il voudrait, et ce serait le désordre dans la société. Il y aurait beaucoup de transgressions et beaucoup d'injustices. Car tous ceux qui ne sont pas honnêtes, tous ceux qui suivent leur passion, ils réclameraient des choses sans droit. Donc les accusations, elles ne sont pas acceptées comme ça, même si l'accusateur est connu pour être le plus véridique des hommes. Et ça, c'est important à souligner. Même s'il est connu pour être véridique, même s'il n'a pas été connu auparavant pour mentir, son accusation, elle n'est pas acceptée comme cela. Mais son accusation, elle est rejetée jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce qu'il amène la preuve de ce qu'il prétend. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite: cependant, la preuve incombe à l'accusateur. C'est-à-dire que c'est à l'accusateur de fournir la preuve de ce qu'il prétend. Car c'est lui qui s'oppose à la base, qui est l'innocence de l'accusé. On lui demande donc de fournir les preuves de ce qu'il prétend, les preuves de son accusation. Et s'il n'a pas de preuve, ou alors qu'il a une preuve, mais que cette preuve n'est pas acceptable. Et ça aussi, c'est important à comprendre. Il se peut que l'accusateur, il ait certaines preuves, mais que cette preuve, elle est rejetée, car elle n'est pas acceptable islamiquement. Il amène des témoins qui ne sont pas des témoins intègres, par exemple. Ou alors, il amène des preuves, mais qui ne sont pas des preuves démontrant ce qu'il prétend. C'est-à-dire qu'elles ne démontrent pas l'accusation qu'il a lancée sur son accusé. Donc ces preuves-là, c'est comme si elles étaient absentes. C'est comme s'il n'avait aucune preuve. À partir de là, le juge se tourne alors vers l'accusé et lui demande de jurer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Sinon, il suffit à l'accusé qui nie de jurer. C'est-à-dire qu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est innocent de ce dont il est accusé. Et s'il fait cela, alors il est innocenté et l'accusation lancée contre lui, elle est rejetée. Ceci est donc une explication concise et résumée des sens de ce hadith. On va donc maintenant voir quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Premièrement, on compte parmi les bénéfices de ce hadith que la législation islamique, c'est une législation parfaite et c'est une législation équitable où tout est mis en œuvre pour préserver les droits de chaque individu de la société, que ce soit dans ses biens, dans son sang ou dans son honneur.
Et tout le bien se trouve dans l'application et la soumission à cette législation parfaite, car elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré pour le bien et l'intérêt de ses serviteurs. Et il est plus savant que nous en ce qui concerne l'intérêt de ses créatures. Il incombe donc aux musulmans de se soumettre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne rien rejeter de celle-ci et ne pas rejeter un jugement parmi les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel qu'il soit, et notamment en ce qui concerne les peines légales, que ce soit la peine du meurtrier, la peine du fornicateur, la peine du voleur, ou encore la peine du diffamateur, celui qui accuse un musulman innocent de fornication. Celui qui n'accepte pas ces lois, celui qui rejette l'application de ces lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs, ceci est dû à un problème, à une défaillance et à un manque de soumission aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que le sang et les biens des musulmans, ils sont sacrés. Et ils ne peuvent pas être rendus licites sur de simples prétentions et de simples accusations. On a vu dans d'autres hadiths ce qui concerne la sacralité du sang et des biens des musulmans. Et ici, on voit que la simple prétention, le simple fait qu'une personne vienne et prétende qu'un tel lui doit telle somme d'argent, par exemple, ceci ne suffit pas. Mais il faut qu'il amène les preuves de cela. Il amène des témoins qui l'ont vu prêter cet argent, et ainsi de suite. Mais le sang et les biens des musulmans, ils sont sacrés, et ils ne peuvent en aucun cas être rendus licites sur de simples prétentions. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que l'injustice, la transgression et le mensonge prédominent chez beaucoup de gens. En effet, regardez la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si on accordait aux gens ce qu'ils prétendent, des hommes réclameraient des biens et le sang des autres. Pourquoi ? Car l'injustice et le mensonge prédominent chez beaucoup de personnes. Ils jugent selon leurs passions, ils suivent leurs désirs, et nombre d'entre eux ne se limitent pas aux limites religieuses dans leurs prétentions et leurs accusations. Et le musulman, il doit craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, et s'éloigner du mensonge, et s'éloigner de toute forme d'injustice. Et il doit se rappeler la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu lorsqu'il l'a envoyé au Yémen en tant que prédicateur. Après lui avoir exposé les différentes étapes par lesquelles il devait passer dans son prêche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est-à-dire que l'invocation de l'opprimé, elle est acceptée. Donc si tu es injuste envers un musulman, que tu mens sur un musulman, que tu accuses un musulman de ce dont il est innocent, sache que tu n'es pas à l'abri, qu'il invoque contre toi et que cette invocation, elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il doit donc prendre garde à cela et craindre l'injustice, s'éloigner de celle-ci ainsi que du mensonge envers les musulmans. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que toute accusation n'est acceptée qu'avec une preuve. Et qu'une accusation qui n'est pas basée sur une preuve, ou qui est basée sur une preuve qui n'en est pas, une preuve qui n'est pas légitime, une preuve qui n'est pas acceptable religieusement, alors cette accusation est rejetée. Et ceci, c'est une base que tu te dois d'appliquer face à toute accusation. Que cette accusation, elle soit lancée contre une personne que tu aimes ou une personne que tu détestes. Car l'islam ordonne la justice et l'équité, même envers tes opposants. Donc le musulman, il ne doit pas accepter les accusations sans preuve. Mais lorsqu'il écoute une accusation, il doit mettre en pratique ce qui est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit « قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » Dis, apportez vos preuves, apportez votre argument si vous êtes véridique. Il est indispensable que l'accusateur, il fournisse la preuve de la véracité de sa prétention. Sinon, toute personne peut prétendre ce qu'il veut sur autrui. Et chacun va accuser qui il veut d'avoir commis tel ou tel péché, ou telle transgression et toute autre chose. Il est donc indispensable pour tout accusateur, s'il est véridique, de présenter et de fournir les preuves de son accusation. Il ne suffit pas de dire « un tel est un voleur » pour que l'on croit qu'il vole. Mais il faut que tu présentes les preuves de cette accusation. Il ne suffit pas de dire « un tel est un menteur » pour qu'on le juge comme menteur. Il faut que tu présentes les preuves de cette accusation. Où est-ce qu'il a menti? Quel est le mensonge qu'il a prononcé? Démontre-nous que ceci est un mensonge. Est-ce un mensonge ou en réalité c'est un manque de compréhension de ta part? Ceci est important. Toute accusation, elle doit être basée sur la preuve. Si la personne est véridique dans son accusation, elle n'aura aucun mal à apporter les preuves de son accusation. Si tu as les preuves de ce que tu prétends, que tu les détiens, que tu en as la certitude, alors il ne te faudra qu'un instant pour présenter ces preuves. Il ne te faut pas des semaines, des mois, voire des années pour présenter les preuves de tes accusations. Mais toute personne qui te les demande, tu dois être en mesure de lui présenter. Et si ce n'est pas le cas, alors ton accusation, elle est rejetée, car tu as les mains vides de preuves. Donc la base en ce qui concerne les accusations, quelles qu'elles soient, c'est qu'on en revient aux preuves. Si elle est basée sur une preuve, que cette preuve est légitime et que cette preuve démontre bien ce dont la personne est accusée, alors elle est acceptée. Si ce n'est pas le cas, elle est rejetée. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'interdiction de juger si ce n'est en fonction de ce qui est légiférant en islam. C'est-à-dire que lorsque la personne elle juge en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Elle ne juge pas en fonction de ses passions. Elle ne juge pas en fonction de ses désirs. Elle ne juge pas en fonction de son opinion, ou en fonction des coutumes, ou en fonction de ce qui fait plaisir aux gens. Mais elle juge en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Car elle recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons un objectif qui est d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Et pour cela, on se doit d'emprunter la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous. Et ce, en jugeant par ce qu'il a légiféré. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith la mise en garde et le grand danger du fait d'accuser les gens sans preuve. Et il n'y a pas de doute qu'un tel comportement, il s'oppose à la piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint à ses serviteurs. Lorsque l'homme accuse un musulman d'une chose dont il est innocent, il se met par cela en grand danger. Il a transgressé tout d'abord l'honneur de ce musulman. Et ceci est interdit. Donc ce hadith, il nous éduque en nous apprenant à ne prononcer des accusations que si elles sont basées sur des preuves. Et à rejeter toute accusation qui n'est pas basée sur celle-ci. Septièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que si l'accusateur n'a aucune preuve et que l'accusé jure par Allah être innocent de ce dont il est accusé, alors son serment, il doit être accepté. Et il n'est pas permis de remettre en doute sa parole, mais on accepte de lui son serment. S'il jure être innocent, alors c'est sa parole qui est prise en compte si l'accusateur n'a pas été capable de fournir des preuves. Certains diront, mais il est possible qu'un homme accuse une personne d'une chose dont il est certaine, mais il n'a pas les preuves de cela. Alors qu'est-ce qui lui incombe dans ce cas-là? Il lui incombe de tenir sa langue et de se taire, et de ne pas accuser un musulman s'il n'a pas les preuves légales lui permettant de prononcer cette accusation à son encontre. Et si l'accusé, il nie et qu'il jure par Allah être innocent, alors son serment est accepté et son sort revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.